Oui, bonjour Daniel, là je suis en train d'écouter l'émission là, très bien là, sur les sans-papiers, les saisonniers sans-papiers. Alors bon, juste pour faire un petit témoignage, l'autre jour j'étais devant le ministère de la précarité, oui ça existe, je crois que c'est Madame Molin, ça dépend du ministère du Travail, c'était bon la semaine dernière, c'est un ministère qui se trouve rue Saint-Georges, et là il y avait une cinquantaine de sans-papiers, des hommes et aussi des femmes et des enfants, qui criaient un mot d'ordre que j'ai trouvé vraiment très juste, et ce mot d'ordre c'était nous ne sommes pas dangereux, mais nous sommes en danger. Voilà, c'est tout quoi. Hein.
Bonjour, c'est Christine. J'habitais Saint-Martin-de-Crau il y a 15 ans. J'ai fait un reportage exactement, j'ai dénoncé exactement ce qui se passe avec photo à l'appui. J'avais une amie qui faisait les articles. Ils m'ont tout fait voir. Je vois qu'au bout de 15 ans, ça n'a rien à changer. Ils vivaient dans la peur. J'ai été extrêmement bien accueillie par ces gens qui m'ont laissé prendre toutes les photos que je voulais. Voilà, et rien n'a changé, rien ne bouge. Au revoir.
Deuxième partie aujourd'hui sur les clandestins ruraux. On continue, on voit que selon ce deuxième message, ça dure depuis pas mal d'années, donc on continue encore aujourd'hui. Et effectivement, on verra si ce premier message donne raison à ceux qui disent « nous ne sommes pas dangereux, nous sommes en danger ». En tous les cas, c'est le sujet d'aujourd'hui. Moi, je suis ici à Milan, exactement à la gare de Milan. Je m'apprête à rentrer dans notre bel hexagone avec beaucoup de paroles, beaucoup de paroles sur ces années de plomb, sur ces 10 ans, 15 ans d'années de plomb. Pourquoi Milan? Nous, on finit à Milan, mais c'est là que tout a commencé. En décembre 1969, par l'attentat de la Piazza Fontana contre la Banque de l'Agriculture, où un attentat à la bombe a fait 17 morts, je ne sais combien de dizaines de blessés, et cet attentat, dans un premier temps, avait été attribué à des mouvements anarchistes. Et puis il a fallu se rendre à l'évidence, c'était au contraire, tout au contraire, des attentats, je dis des parce qu'il y en a eu plusieurs en même temps, mais celui-là a été le plus terrible, un attentat dont les auteurs étaient des mouvements d'extrême droite, manipulés probablement, en tous les cas protégés par une partie du gouvernement et des services secrets italiens. C'était le début de ce qu'on allait appeler la stratégie de la tension, qui avait pour but de déstabiliser le système de façon à préparer un gouvernement fort et peut-être même un coup d'État. Ça n'a pas marché. C'est autre chose qui a marché, mais qui a marché, on ne sait trop comment, et bien souvent sur la tête. Parce que ce qu'on rapporte, c'est quand même une histoire très compliquée qui n'est toujours pas écrite, et c'est ce que je vous disais hier. Si on peut appeler ces années des années de plomb, ce plomb est encore en fusion. Voilà, et on commencera cette série de reportages à partir de lundi ou mardi prochain. D'ici là, retour en Provence.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Thierry Scharf, une heure au gourbi.
Flight number 2, arriving from New York.
C'est pratique parce qu'ils sont, là en temps voulu, puis après quand ils ont fini, quand même, ils s'en vont volontiers.
Hein. C'est un rêve pour nous, ça, venir ici.
On a un ou deux qui parlent très peu, mais eh ben, c'est là qu'ils bossent plus que les autres.
Ton patron, donc il sait que t'as pas de papier.
Ouais, il sait. J'ai les cartes fausses.
T'as une fausse carte.
Aujourd'hui, on a 3 personnes à déclarer, mais il nous en faut 2 de plus. Comment on fait? Tu vas taper aux portes n'importe où? Ils sont là, ils n'osent pas. Oui, non.
Qui est-ce qui veut bien me montrer comment il vit?
Ouais.
Ça vous ennuie pas?
Non, pas du tout.
On y va?
Vas-y, allez.
Voilà, venez-y, entrez.
Voilà, on ouvre la porte.
Ah, vous, c'est pas une caravane, c'est une camionnette, là.
Voilà, c'est hein? Une fourgonnette.
C'est une fourgonnette que vous avez aménagée en baraque, quoi.
Voilà. Hein?
Ouais. Depuis combien de temps vous êtes là?
7 ans.
7 ans. 7 ans que vous vivez là, dans la fourgonnette, là. Oh, la vache. Alors, vous êtes aménagé une petite devanture, là, avec un réchaud, une bouteille de gaz.
Ouais.
Puis je vois du pain dans les sacs plastiques, des roues de vélo, tout ce qu'on veut, un peu.
Un vélo, là. Hein? Ouais. Mieux que rien, hein.
Ah, ça, c'est c'est la poste radio, là. Hein? Qu'est-ce que vous écoutez comme radio?
Sur Radio Trafic.
Radio Trafic?
Ouais. C'est ma parole, ouais. 7 jours sur 7.
On est à Ber, l'étang de Ber, dans les Bouches-du-Rhône, non loin de Vitrolles, Et là, dissimulé au regard, un bidonville rural, qu'on appelle les cabanes, qu'on appelle les cahutes, qu'on appelle le gourbi, où depuis des années et des années se succèdent, au gré des saisons, un certain nombre de travailleurs, migrants, immigrés, qui viennent principalement du Maghreb, mais pas seulement, et qui viennent là, eh bien, pour travailler dans les exploitations de légumes, de fruits de la région. Les saisonniers qui travaillent dans ces conditions sont environ 10 000 en France, 4 800 rien que pour les Bouches-du-Rhône, et ils bénéficient d'un contrat qu'on appelle le contrat OMI, qui leur garantit un certain nombre de... C'est le garanti par l'Office des Migrations Internationales, donc voilà ce qu'est l'OMI, qui leur garantit un certain nombre de droits, mais pas tant de droits que ça. Ils ont le droit de repartir au bout de 8 mois, obligatoirement. Et quant au renouvellement, quant à leur chance de leur possibilité de revenir la saison suivante, eh bien, elle appartient à l'employeur. Évidemment, c'est une possibilité pour l'employeur de faire toutes les pressions qu'il veut et qu'il peut aussi, parce que on va le voir, l'employeur lui-même subit des pressions, les pressions du système de production de plus en plus intensif, de plus en plus en flux tendu. Mais toujours est-il que la variable d'ajustement dans la production en flux tendu de ces fruits et ces légumes qu'on retrouve dans nos grandes surfaces ou chez l'épicier du coin de la rue, eh bien la seule variable d'ajustement, c'est, et oui bien sûr, c'est le saisonnier, c'est l'immigré qui, quoi qu'il cotise en principe aux différentes caisses sociales, n'en profite absolument pas, ni maladie, ni retraite, bien évidemment. Bref, vous avez compris, il s'agit d'une forme d'exploitation, on a parlé d'esclavage, malgré le paravent de ces contrats, et voilà ce qui nous préoccupe aujourd'hui. On a vu que beaucoup d'auditeurs, vous êtes très nombreux à connaître cette situation, parfois l'avoir vécu, comme les messages en ont témoigné. Voilà pourquoi nous sommes jusqu'à 18h ensemble.
Poulet numéro 728120. Poulet de Vendée. Élevé en plein air, 89 jours et 90 nuits. Parmi 380 autres poulets, alimenté avec 75% de céréales. Le 3 décembre 1998, à l'abattoir de Saint-Fulgent, électrocuté, vidé, déplumé, lavé, conditionné, labellisé le poulet. Le 11 décembre 1998, je l'ai acheté 52,55 francs chez le boucher chauve rue de la Bastille. Je l'ai mangé chaud le midi, froid le soir, avec une bouteille de vin rouge. Je l'ai adoré, le poulet. Mon poulet, numéro 728 120. Je t'aime, je pense à toi.
Voilà les photos. C'est les photos de la famille, là.
C'est ma femme.
Et puis les enfants.
C'est le dernier, là. Il a maintenant 2 ans.
Ils sont où, ces enfants, alors?
Ils sont quelque part dans le monde. Hein?
Bon. Ouais. Ah, toute une petite famille, là. La femme, ouais, les enfants,
celle-là.
Qui posent bien.
Celle-là, ouais. La
avec les grands habits.
Ouais. Celui-là aussi. Après.
Vous avez combien d'enfants?
J'en ai 4.
4.
Ouais, 2 filles, ouais. Et 2 garçons.
Alors vous leur envoyez de l'argent?
Ouais, de temps en temps. Quand j'ai gagné de l'argent, eh ben j'envoie 700, 500.
700, 500 francs, c'est ça? En ce moment, là, vous n'avez pas de boulot?
Non, je travaille.
Si, vous travaillez?
Je travaille dans l'aubergine, quoi.
Ramasser les aubergines.
Si, si.
C'est quoi ce bruit qu'on entend, là?
Il prend de l'eau.
Ah, c'est une pompe à eau, hein,
pompe,
c'est ça.
L'eau. En plus, il n'est pas potable, l'eau, ouais. Il n'est pas potable, là. C'est pour se laver, hein, pour laver les vaisselles, les habits, aussi, les vêtements, quoi, hein. Nous vivons dans la misère. Dans des gourbis, pareil, hein. C'est honteux. C'est un scandale, quoi. Hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est venu là pour bosser, travailler, gagner un peu, si c'est possible, hein. Et on se retrouve dans un endroit pareil, hein. C'est pas honteux, là.
Vous avez essayé de trouver des logements dans la région, là?
Ouais, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé, quoi. Y a pas, quoi. J'ai pas trouvé. Alors, j'ai venu ici, là, pour au moins dormir, hein. Tranquille. Personne ne vous gêne. Mais, dans la misère. Hein?
Et votre femme, elle n'est pas au courant de tout ça?
Non, elle n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant.
Vous ne voulez pas lui dire?
Bien sûr. Je le cache.
Hein? Vous le cachez?
Ouais. Eh ben, ce n'est pas une affaire des femmes, hein? C'est mon affaire. Bosser, travailler, gagner un peu du flous, comme on dirait.
Hein? Du flous d'argent, ouais.
D'argent, c'est-à-dire, hein? Et puis, voilà. Peut-être si j'arrive à gagner du flous, eh ben, je quitte. Je quitte.
Vous quittez le gourbi, là?
Ah, je quitte le gourbi, premièrement. Et pourquoi pas quitter la France tout entière. Hein? Eh ben, la vie est dure, cousin.
Hein? Il y a les photos en vrac, là, à côté de la bougie. Hein? C'est un petit coin de paradis que vous savez, quelque part, ça, là, ces photos, hein, ouais, votre famille.
Bien sûr, oui.
Est-ce que vous leur envoyez de l'argent, vous vous dites qu'ils sont bien, c'est ça?
Ce sont mes gosses, hein. C'est ma femme, hein. C'est un sacrifice.
Et vous vous dites pas, j'arrête d'envoyer de l'argent, et moi aussi j'ai droit à une vie digne, honorable?
Non, j'ai jamais pensé à ça. Je pense qu'à envoyer de l'argent à ces mineurs-là. Oh. Putain, c'est dur.
Alors évidemment, ça donne un goût un peu particulier aux oranges, aux pêches, aux pommes et aux salades et aux laitues et que nous mangeons. C'est une voix comme celle-là. Alors quand je disais qu'il y a 10 000 saisonniers immigrés en France, migrants en France, il s'agit de ceux qui ont des contrats au mi 10 000 en France et 4 800 rien que dans les Bouches-du-Rhône. Mais il y a aussi beaucoup de clandestins, beaucoup de sans-papiers, et c'est le cas de celui que nous entendons, bien évidemment. Alors ce qu'on nous expliquait hier, ce que Guy Marigot de la Confédération Paysanne et aussi du collectif de défense des travailleurs saisonniers, parce qu'il y a un collectif qui s'est constitué quand même, trop d'exploitation, il y a des limites à tout. Il nous expliquait, hier, il n'est pas le seul, mais il l'expliquait avec une verve particulière, que le sans-papier est nécessaire pour fragiliser celui qui a un contrat OMI, qui est nécessaire, lui, pour fragiliser l'intérimaire, qui est nécessaire, lui, pour fragiliser le CDD, celui qui a un contrat CDD, qui est nécessaire, lui, pour fragiliser celui qui a un CDI, etc. Donc, tout un système de fragilisation qui permet évidemment d'avoir une main d'œuvre docile, habile, silencieuse, et qui dès que ça va un peu mieux, qui aurait tendance à peut-être commencer à exiger quelques droits ou quelques immédiatement de cette façon corvéable à merci, enfin plutôt on lui dira merci sans possibilité de retour. L'exploitation dans le domaine des fruits et légumes n'est pas une histoire nouvelle, bien évidemment, et évidemment notre belle France n'a pas le monopole. On se souvient des émeutes à El Hierro en Andalousie, mais c'est aussi bien en Hollande, par exemple, où aujourd'hui une grande partie de l'exploitation des serres est informatisée, et depuis peu les travailleurs eux-mêmes sont surveillés par ordinateur, ils ont un code-barre, les travailleurs eux-mêmes ont un code-barre. Quand on dit que l'homme devient une marchandise, on a cru que c'était une métaphore. Non, ça y est, il y a les rayures dessus. C'est quand même assez formidable. Alors, je pense que là on produit pas seulement des fruits et des légumes, peut-être nos fleurs au coin de la rue sont produites en Hollande dans des conditions pareilles. Alors, à qui la faute? Comment trouver les raisons d'agir? Sur quoi agir sur tout ça? Voilà ce qu'en pense Guy Marigot.
Le problème aujourd'hui est vraiment une tache sur le nez de la République, parce que la pression est telle sur les producteurs. Alors, il y a certes des producteurs qui sont des gens avides, qui veulent gagner plus, mais il y a aussi une pression de la grande distribution. Il faut appeler un chat, hein, lorsque vous voyez le bonheur est dans le prix, hein. Ça veut dire quoi, ça? Le bonheur est dans le prix, est-ce que tout doit être pas cher? Est-ce que c'est le bonheur de payer pas cher? Je ne suis pas convaincu. La pression est telle au niveau de la grande distribution, parce que c'est elle aujourd'hui qui contrôle et qui gère tout ça. Les producteurs sont amenés, pour survivre, pour beaucoup d'entre eux, à se comporter d'une manière qui tient plus la route, quoi, qui ne tient plus debout, politique, d'une manière, on va dire, déshumanisée. Alors, il y a toujours eu une main-d'œuvre saisonnière, enfin, pas toujours, c'est certain qu'à l'époque des Gaulois, il n'y avait peut-être pas de saisonniers. Mais depuis que la région s'est quand même spécialisée dans le maraîchage, il y a de la main-d'œuvre saisonnière qui, bon, c'est pas nécessairement un mal en soi, c'est un système, je vois pas comment on pourrait y parer. Mais par contre, ce qui est inacceptable, c'est que la pression est telle que les producteurs, ben, on sont obligés de se comporter comme des saligots, quoi. Et ça, c'est plus acceptable depuis, on va dire, une quinzaine d'années, quoi.
Obligés de se conduire comme des saligots, alors, je suppose que les exploitants agricoles dans le domaine, s'ils écoutent, doivent être en train de nous détester. Mais, ça semble quand même aller dans ce sens-là. Et un témoignage hier, en tout cas, qui allait dans ce sens-là. Mais bien sûr, il y a les exploitants et il y a les exploiteurs. Et Daniel Roche, que Thierry Scharf a rencontré, serait plutôt un exploitant, pas trop exploiteur.
C'est immense ces serres, là.
Oui. Ah oui.
Celle-là, combien de long ça?
Celle-là, elle fait 7000 mètres carrés.
Alors Daniel Roche, vous êtes exploitant agricole?
Oui.
De père en fils?
Oui, depuis plusieurs générations. Ouais.
Ah. Votre production principale, c'est quoi?
Tomates.
Que tomates?
Seule tomate. Monoculture de tomates.
Sous serre?
Sous serre, oui, aujourd'hui. Bien entendu, il y a 5 générations, c'était pas sous serre. Et puis, c'est mon père qui a commencé à monter les serres, ici, voilà. 30000 mètres carrés. C'est-à-dire 3 hectares.
Ah oui.
Sous serre.
Ça vous permet de faire de produire toute l'année quasiment, non?
En culture toute l'année, oui. Mais production environ 8 mois. 8 mois de l'année. Du mois de février au mois d'octobre.
Et donc vous employez des saisonniers,
hein? Oui. Oui, des saisonniers sous contrat OMI. On a toujours fait appel à de la main-d'œuvre saisonnière, immigrée, essentiellement marocaine et tunisienne.
Vous subissez une pression permanente, hein, sur les prix et par les hypermarchés.
C'est ça, exactement. Je vais vous donner un exemple qui est d'aujourd'hui. Vous pourrez aller voir sur dans notre secteur des producteurs de salades. Les producteurs de salades ont coupé leurs salades et vendu au supermarché toute la semaine passée 10 centimes, entre 10 centimes et 15 centimes d'euros. Alors que vous, les consommateurs, vous allez les trouver au supermarché à 1 euro, 1 euro 10 ou 1 euro 20. Donc, aujourd'hui, la grande distribution a quasiment le monopole de la distribution des fruits et légumes. 80%, c'est un quasi-monopole en fait. Il faut trouver le moyen toutes les années de produire plus. C'est une absolue nécessité. On peut pas faire autrement.
Est-ce que ici l'agriculture dans le coin là des fruits et légumes tiendrait sans cette main d'œuvre immigrée?
Non. Ça c'est certain.
La balle, oui. C'est cadeau, je veux le dire.
Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et un kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un bon plateau de pêche ou bien d'abricot. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets. Et par-dessus tout ça, on vous donne en étrenne la salle qui se promène et qui n'en finit pas. À la bella poutine, à la bella poutine, les peines, les vives, paye, paye, paye. À la bella poutine, paye, paye,
paye. Eh oui, évidemment. Les marchés de province, les marchés pittoresques, folkloriques, etc. Oui, c'est vrai que c'est beau, c'est vrai que c'est agréable, mais voilà, il y a l'envers et l'enfer.
du décor. Pourquoi viennent-ils chaque année, depuis longtemps, c'est une vieille histoire, hein, les immigrés dans l'agriculture provençale, puisque là, c'est là où nous sommes, c'est une histoire ancienne des générations d'Espagnols, de Portugais, se sont succédés dans ces régions. C'est que aujourd'hui, on a pas mal de ces travailleurs qui viennent du Maghreb. Je le disais hier, au Maroc, on gagne 4 euros par jour. Alors même mal payé entre 3 et 5 euros de l'heure ici, ben voilà, ça représente de 4 à 10 fois plus en France que chez soi. Et voilà la raison pour laquelle les uns et les autres viennent, se taisent, ne font pas de vagues, ne font pas parler d'eux. Et ne sont pas intéressés à ce qu'on parle d'eux. Voilà la raison de cette omerta. Sauf, parfois, quelques-uns. Et là, en plus, c'est quelques-unes, ou plutôt quelques-unes, une qui ose parler, qui ose protester et qui considère qu'elle a des droits humains, qu'il y a quand même des droits dans un état de droit comme le nôtre, et qui est soutenue d'ailleurs par le MRAP, par la CGT, pour se défendre face à l'exploitation dont elle a fait l'objet. Son nom, c'est Naïma, et c'est pas un nom d'emprunt, c'est son vrai nom, Naïma.
Mais moi, je suis rentrée ici en 90. Lui, le patron, il venait chez les ouvriers parce qu'il en a au moins 100 ou 130 ouvriers qu'il a en contrat omis. Mais lui, avant, il venait au Maroc, le patron. Il venait voir ses ouvriers pour embaucher d'autres nouveaux. Il leur touchait la main, s'ils étaient solides, s'ils étaient costauds. Il leur serrait la main pour voir. Alors, tous les Marocains, ils étaient là. Bien sûr, il allait voir tous ses ouvriers. Il se faisait inviter, il se faisait mettre une tente pour tuer le mouton et tout. Et puis après, ben, chacun y donnait les photos, les extraits de naissance, pour qu'il lui fasse un contrat pour son fils, pour son neveu, pour...
Vous habitez dans quel coin du Maroc?
Je suis de Fès.
C'était le Père Noël qui arrivait dans votre village?
C'était le roi qui arrivait.
Ah ouais.
C'était pas le Père Noël, c'était le roi qui arrivait au Maroc. Chez les ouvriers, il se faisait, et puis il donnait des ordres. En plus, moi, je veux manger sous la tente et tout. Et puis, il faisait venir sa fille d'Amérique avec son copain, tout, son fils, sa belle-fille, lui, sa femme, tout. Des amis à lui.
Et continue à faire ça?
Là, maintenant, il y va plus parce que il a eu beaucoup de gens qui ont été en accident de travail et puis qui les a foutus dehors. Et puis, ils l'ont menacé. Hein. Ils lui ont dit, quand tu rentreras au Maroc, ben, tu verras ce qu'on te tuera si tu rentres au Maroc.
Ah oui.
Donc, moi, je travaillais comme aide-soignante et puis tous les ans, lui, il venait avec sa famille. Mmh. Et quand il venait chez mon père parce que mon père, il a travaillé 25 ans chez lui.
Ah oui, votre père a travaillé 25 ans.
Mon père, mon frère... Mon beau-frère, 4 ou 5 cousins, mon oncle, 2 oncles. Il avait beaucoup, beaucoup de famille. Il avait en tout au moins une douzaine de ma famille. Il y avait 2 enfants. Il y avait un gamin de 2 ans et une gamine, je sais pas, de 3-4 ans, à peu près. Donc, c'était moi qui les gardais. Puis voilà, il fallait faire le ménage, le lavage, le repassage, rester dans une grande villa, une grande propriété, et élever les enfants. Eux, ils étaient jamais là.
Alors vous reveniez tous les ans faire ce boulot-là,
oui,
garder les enfants.
Oui, oui.
Pendant combien de temps alors? 6 mois?
Pendant 10 ans.
Pendant 10 ans, vous avez fait ça, mais combien de temps?
8 mois par an.
8 mois par an.
Ouais. Des fois, c'était 9 mois, mais là, j'étais illégale. Ils me gardaient, mais mon contrat était périmé. Et puis voilà.
Enfin, c'était une garde saisonnière d'enfants, quoi.
Voilà. Une bonne à tout faire.
C'est ça, vous êtes devenue une bonne à tout faire.
Oui, j'étais une bonne à tout faire. Et j'avais pas le droit de voir les voisins, j'avais pas le droit de sortir, j'avais pas le droit de parler à qui que ce soit.
Ah bon, à ce point-là?
Oui. J'avais pas le droit de me marier, j'avais pas le droit
Pas le droit de vous marier?
Pas le droit de me marier. Pas le droit d'avoir des enfants. Sinon, toute ma famille, elle se retrouve dehors. Ils m'ont fait du chantage pendant des années. Et plusieurs fois. Oui.
En vous interdisant d'avoir des enfants et de vous marier.
Ben, c'est pour ça que j'en ai pas eu. J'en ai pas eu. Vous voyez que j'ai des enfants, là? J'en ai pas. J'en ai jamais eu d'enfants. Je me suis mariée en fait parce que bon ben j'ai tapé un peu sur la table. J'ai dit ou je me marie ou je reviens plus. Bon là ils ont dit bon ben si tu veux te marier ben on te fera venir ton mari ici. Alors ils lui ont fait le contrat. Et en fait on était toujours à leur merci, à dire merci, voilà.
Vous étiez payé combien, Naïma?
Moi, j'étais payé beaucoup. Moi, j'étais payé 3000 francs. Enfin, 5000. C'était 5000. Pour la fin du mois, j'avais 5000 francs. Mais il retenait 2000 francs de charge pour le studio que j'avais, pour l'appartement, si on peut dire un appartement. Il était tout. Il tombait en ruine. Moi, je couchais là et l'eau, elle dégoulinait là. En plus, il fallait payer les contrats. Moi, je payais beaucoup plus. Je payais tous les ans 5000 francs.
5000 francs?
Oui, 5000 francs pour obtenir un contrat. On le paye quand on rentre, il le retient sur le salaire directement.
Il fallait acheter son contrat, quoi.
Il le disait pas comme ça, lui.
Ça comment?
Eh ben, il disait qu'il avait trop de charges à payer, donc il était obligé de ne retenir sur le salaire.
Histoire incroyable, mais pas tant que ça si on voit le cadre dans lequel ces immigrés travaillent depuis autant d'années. Alors on pourrait se dire, oui, bon, ben voilà, c'est un cas limite, scandaleux, honteux, mais enfin, limité, une bavure. C'est pas du tout sûr que ce mode de... On l'a vu récemment dans les reportages à Milan, qu'il est tout à fait à craindre que ce genre de relation ne se multiplie, et même que les contrats omis dont nous avons parlé préfigurent l'immigration du futur en Europe. Les relations dans le travail, les conditions de travail sont de plus en plus, disons, sauvages, barbares dans nos pays, pour des raisons qui ne sont pas dues seulement à la vilainie des hommes, mais aussi à tout un système de production face auquel on laisse faire.
Et voilà que j'ai eu un accident. Je suis tombée chez eux.
Comment?
Ben, j'étais en train de faire la poussière et couper une plante. J'étais en train de la tailler parce que moi, les plantes, il y en a beaucoup dans la maison. C'est moi qui les taille et tout. J'étais en train de la tailler et elle était haute. Elle était sur une étagère. Et puis, je suis montée sur l'escabeau. Je suis tombée. Il m'a mis dehors quelques temps après l'accident. Qu'alors, mon mari, il a eu un accident aussi. Il est tombé dans les champs.
Il en est où votre mari maintenant?
De là, j'ai mon mari.
Il a plus retravaillé alors?
Non, il a plus retravaillé.
Le patron l'a mis à la porte?
Ah oui, il lui a envoyé une lettre. Je l'ai. Il lui a envoyé une lettre qu'il ne reprendrait plus. Quand on a un accident de travail ou qu'on est malade, l'employeur, il vous met dehors. Il vous connaît plus. Parce que il a la possibilité de reprendre d'autres contrats.
Oui, vaillant.
Si moi je vous riais, il y en a une dizaine au Maroc ou en Tunisie qui attendaient. Ils attendent que ça. Mais ils savent pas ce qui leur attend. S'ils savaient ce qu'ils attendaient ici en France, je suis sûre qu'ils viendraient pas. Mais ils savent pas. Ils entendent la France, ils voient les gens venir avec leur voiture, tout. Eh ben, ils doivent se dire, là-bas, on ramasse beaucoup d'argent, on rentre en France, on balaye l'argent avec un balai, on les ramasse, on le met dans un sac et on repart au Maroc. Mais ils savent pas ce qui se passe ici. Ils savent pas la loi qui est faite ici pour les saisonniers. On n'a aucun droit.
Ah, voilà le mari. Ah, vous êtes en accident du travail?
Oui.
Ouais.
Ramasser les taux, il y a...
Ramasser quoi? Que vous ramassez quoi?
Ramasser le pêche.
Les pêches? Ouais.
Les pêches, il y en a ramassé le grand branche et les crochets comme ça, elle est tombée.
Et vous êtes tombé?
Tombé juste par terre.
Et vous avez travaillé dur, là, dans les champs?
Ah oui, ouais. Elle est très, très dure.
Très dure?
Ouais.
C'est quoi les horaires?
6h du matin.
De 6h du matin?
Oui, je finis 9h30, 10h.
9h30, 10h du soir?
Ouais.
De 6h du matin jusqu'à 10h du soir?
2h du soir, ouais.
Tous les jours comme ça?
Tous les jours, jusqu'à finir les pêches, jusqu'à arrêter.
Jusqu'à ce que les pêches soient ramassées, quoi.
Voilà.
Jusqu'à la fin de la cueillette.
Voilà. Il n'y a pas fini les pêches dans le ramassage, la taille.
La taille, vous faisiez la taille après.
Faisiez la taille. Après la taille, c'est tout. C'est parti au Maroc.
Et après, vous repartez au Maroc.
Ouais.
Ce qu'on voudrait, mon mari et moi, c'est obtenir un titre de séjour. Parce que nous, on a travaillé quand même 10 ans. Ici, moi, j'ai travaillé quand même 10 ans. Et 10 ans, c'est pas rien. De 90 à 2003, ça fait 13 ans. Alors, au bout de 13 ans, je crois qu'on n'a plus de vie dans un autre pays, qu'on est des étrangers, quoi.
Ouais, c'est ça. Vous êtes étranger chez vous.
Eh oui. Puisqu'on a passé presque la moitié de notre vie ici, on a travaillé ici, on a cotisé ici, on a tout fait ici. Alors je vois pas pourquoi la France, qu'au bout de 13 ans ou 14 ans, nous dit, vous avez plus le droit de rien, vous repartez chez vous.
Et pendant toutes ces années, Naïma, ouais, que vous avez travaillé comme ça, d'arrache-pied pour cette famille, pas très reconnaissante.
Oh non. Oh non.
Qu'est-ce que vous disiez, vous? Vous veniez du Maroc régulièrement, vous repartiez.
Ouais, ouais. J'avais le droit de.
Et vous reveniez quand même?
Je revenais quand même parce que, je le faisais pour mes parents. Et je le faisais pour les enfants que j'ai élevés. Quand même, j'étais attachée à ces enfants.
Ah oui.
Et je les aime toujours. Parce qu'ils sont pas fautifs, ces enfants. Ces enfants, ils sont pour rien. Et puis, je les ai gardés 10 ans, c'est pas rien. Et je les ai aimés comme si c'était les miens. Et je suis toujours attachée à eux. Mais malheureusement, je les vois pas. Je les vois pas, puisque là, on est en procès et tout. Donc, je les vois pas. En fait, c'était de l'esclavage. J'étais dans une maison que je travaillais jour et nuit. J'étais là à plein temps. Ils partaient en vacances, ils me laissaient les enfants. C'était moi qui les gardais et tout. Je sortais pas. J'avais pas le droit d'avoir un week-end. J'avais pas le droit d'avoir un jour férié. En plus, je suis pas payée pour les week-ends. Je suis pas payée pour les jours fériés. Je suis pas payée pour les heures supplémentaires que je fais. Et j'avais pas le droit de dire quoi que ce soit. Fallait que je dise merci. Et je le disais. Je vous dis la vérité, je le disais.
Témoignage de Naïma, une des seules, une des rares qui ose se battre, qui ose aller en justice, qui ose lutter pour ses droits. C'est tout à fait un cas tout à fait exceptionnel sur ces milliers de migrants et de travailleurs précaires qui se succèdent dans ce domaine des fruits et des légumes dans les Bouches du Rhône. Alors, Emmanuel Terray est anthropologue, il est anthropologue à l'Institut des Hautes Études en Sciences Sociales. Il est l'auteur, entre autres, de Sans Papier, l'archaïsme fatal, aux éditions de La Découverte, avec un certain nombre d'autres auteurs. Et il a inventé, enfin si on peut dire, le concept de la délocalisation sur place. Emmanuel Terray.
Tout ça se passe au vu et au su, et en particulier au vu et au su des pouvoirs publics, qui savent très bien ce qu'il en est, et qui maintiennent suffisamment de pression pour que les intéressés soient toujours dans la peur, et soient toujours sensibles à leur situation vulnérable, et agissent en conséquence, en acceptant le sort qu'il leur est fait. Et puis en même temps, l'idée qu'on va éradiquer les migrations clandestines, c'est une idée folle, et tout le monde sait bien, et le gouvernement le premier qui ne le fera jamais, parce que sinon il n'y aurait plus de restauration à Paris, il y aurait une très grave crise du bâtiment, la confection parisienne s'arrêterait, etc. etc. Donc tout ça, ce sont des phrases, on est dans l'hypocrisie la plus totale. D'un côté, vous avez une politique très restrictive en ce qui concerne l'entrée et le séjour des étrangers, est très répressive, en principe, vis-à-vis des immigrés illégaux, et qui l'est suffisamment pour qu'ils vivent constamment dans la peur. Et puis en même temps, cette politique est quand même appliquée avec suffisamment de souplesse pour que cette main-d'œuvre vulnérable, elle soit quand même présente. Et il faut bien mesurer cela. Chaque année, bon an, mal an, jusqu'à présent, en tout cas, le gouvernement expulsait de 10 à 15 000 personnes par an. Mais les évaluations du ministère de l'Intérieur, qui sont d'ailleurs les mêmes depuis 25 ou 30 ans, nous disent qu'il y a en France de l'ordre de 300 à 400 000 illégaux. Autrement dit, les expulsés représentent de 5 à 10% du total, et 90% restent là. Et nous connaissons tous des sans-papiers qui sont là depuis 10, 12, 15 ans, qui ont toujours passé entre les gouttes et qui sont donc exploités dans ces conditions depuis 12 ou 15 ans. La seule issue véritable, la seule solution qui permet aux étrangers de sortir de cette situation de précarité et de dépendance, c'est la carte de résidence, c'est la carte de 10 ans. Parce que tant que ils ne bénéficient que d'une régularisation précaire, si j'ose dire, soit avec des contrats omis qui durent quelques mois et qui impliquent chaque année un retour au pays avant d'être renouvelé si l'employeur le décide, soit avec des cartes de séjour d'un an qui sont renouvelables au gré de l'administration, eh bien ce sont des gens qui restent dans la précarité, qui restent dans la dépendance et qui par conséquent continuent d'être soumis à ce même régime d'exploitation parce qu'ils n'ont aucun recours contre lui. Si vous voulez, le dispositif me paraît très fonctionnel. Travailler dans ces conditions, bon, ça bénéficie, j'allais dire, à tout le monde, bien entendu, sauf aux travailleurs, mais l'État y trouve son compte, parce que ce sont des secteurs qui, sans doute, la production y est assurée par des illégaux ou par des étrangers en situation d'extrême précarité, mais ces secteurs alimentent aussi et font subsister un certain nombre d'emplois d'étrangers en situation régulière ou de Français. Ça permet à des emplois français de subsister.
20 balles ? Oui. C'est cadeau, je vous le dis, moi. 20 balles, c'est cadeau. Allez, 20 balles, le tout 20 balles. 20 balles,
Une autre analyse et une autre... pas solution, parce qu'on voit bien que c'est pas un problème quand même qui est si simple que ça, mais enfin quand même qui nous concerne en tant que clients. Nous sommes des consommateurs et des consommateurs. Le point de vue de Guy Marigot.
Alors, vous dénoncez, vous mettez en garde, qu'est-ce que vous préconisez comme solution?
Déjà que le consommateur prennent conscience que lorsqu'il achète n'importe quoi, à n'importe quel prix, et qu'il ne regarde que le prix, qu'il prenne conscience déjà qu'il est un des acteurs, sinon le complice, de tous ces phénomènes-là. Et qu'il n'accepte plus que le bonheur n'est que dans le prix. Ça, c'est clair. Après, l'éducation du consommateur, on verra, mais déjà que les gens prennent conscience. Un jour, je me souviens qu'il y avait une manifestation de paysans sur les Champs-Élysées. Les paysans faisaient, ça fut une vente, une espèce de vente sauvage, là. Il y avait un paysan qui, pour une fois, disait quelque chose d'intelligent. Il disait, il faut que les consommateurs pensent que leurs emplettes d'aujourd'hui sont leurs emplois de demain. Et que le consommateur arrête de se laisser traiter de consommateur, parce que il est consommateur quand il consomme, mais c'est pas une appellation consommateur. En République, il y a des citoyens qui sont effectivement des consommateurs lorsqu'ils consomment, et qui se comportent un peu plus en citoyens. Et que si leurs enfants ou leurs petits-enfants sont au chômage, ils se posent la question si eux-mêmes ne sont pas en train de leur préparer, n'est-ce pas, leur billet, leur ticket d'entrée à la CEDIC ou à la NOP.
Et pendant ce temps-là, en attendant, eh bien, Mongy est toujours dans sa cabane, dans son gourbi, attendant, espérant.
Comment ça se passe avec les patrons ici?
Par exemple, mon patron, il est gentil, hein. La parole, gentil. C'est un bon type, quoi, hein.
C'est toujours le même ou?
À chaque fois, je travaille chez quelqu'un, mais maintenant, je travaille chez un patron magnifique. Hein?
Et il sait que vous habitez ici?
Non.
Vous ne l'avez pas dit?
Pas au courant. J'ai honte de lui dire ça. Tu vois? J'ai honte.
Et le travail dans les serres, là, c'est dur?
Tu sais, surtout cet été, c'est très chaud, non?
Ouais, avec la canicule, ouais.
47 degrés, même plus, hein. Et dans la serre, il faut ajouter au moins 15 degrés, encore. 47, plus 15, eh ben, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Et pourtant, je résiste, quoi. Hein?
Quand on mange les, les légumes là que vous ramassez péniblement, on n'imagine pas tout ça, nous.
La marchandise, ils l'achètent, et ben, ça s'arrête là. Ils ne pensent pas que derrière cette marchandise, ces légumes, il y en a des êtres humains qui souffrent.
Contrastant ses souvenirs, tarbé d'un embarcadère ensoleillé au départ. Une arrivée sur un ponton terne et un visage hilare. Celui d'un contremaître de l'encre, un tampon à la main, frappant le plan de cette valise retenant la douleur. Ses visages s'engouffrant dans un train, direction l'usine de camion pour un bien dur labeur. Les sirènes n'ont pas de voix mélodieuse, leurs appels stridents en force à cinq, leurs espoirs tels des moqueuses. Ces vestiges de période dure qu'elle garde en elle, c'est qu'elles marquent son cuir et le morcel.
Je suis allé faire parler le cul usé d'une valise, entreposée sous la poussière terre d'une vieille remise. Légère surcrue, on balafrait de part en part. Une étiquette fanée rappelle son premier départ. Et janvier 53, la tatouée d'un plein cap sur le froid. Au fond de ce bagage, pas d'invitation au voyage, mais la plaine de Rélizène qui pleure en fils parti. Gagner le droit de ne plus errer affamé. Au fond de ce bagage, la coupure tachée d'un journal où s'étale le résumé du procès des agitateurs d'une usine embrasée. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain.
C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain.
Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise, autrefois pleine d'espoir, maintenant pleine de poussière. Si tu savais son histoire, partie de la soufrière, en portant quelques vêtements chauds pour cette terre de convoitise. La haine et la neige comme découverte, et les visages se glacent face aux spécimens d'outre-mer. En cette pleine période d'exode qui accompagne les îles, commence un triste épisode lorsqu'ils débarquent des îles. Pour finir empilé sur l'armoire du foyer, témoin du gain dur à envoyer. Souvenir terne d'une employée fidèle, toujours à la traîne derrière cet employé modèle.
Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise de près d'un quart de siècle, mon aîné. Hier qu'en 62, les ruines encore traumatisées de Lomé jusqu'au port de Gorée. Elle témoigne de ses rêves en rupture de sève, à la levée des passerelles sous une averse de grêle. Le mistral du Grand Nord traverse sans jamais trahir le vieil héritage colonial dominé par les siècles, reliant le Havre et ses environs depuis la sinistre cale d'un navire d'embarcation. Quand même les rails des cafards cohabitent en paix avec les symboles vulgaires de la France d'après-guerre, il se pourrait que cette valise confinée dans un coin hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain.
C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain.
Qu'elle n'est pas venue en vain. Qu'elle n'est pas venue en vain.
Je suis Danielle Legendre du Vaucluse. Je suis l'une des nombreuses pieds noirs du Vaucluse. Savez-vous que reproches, souvent infondés et de mauvaise foi, qui ont fait tant de mal aux pieds noirs déjà très malmenés par l'histoire, figuraient leur tutoiement à l'égard des indigènes ? J'ai de ce fait été tristement amusé que vous, monsieur Mermet, vous l'utilisiez, vous dont on connaît l'orientation politique pour le moins systématique, lors de votre reportage sur le bidonville de l'étang de Berre. Salut.
Je voulais apporter des informations au sujet des gens qui disent que c'est mieux d'acheter chez son petit boucher, chez son petit épicier. Mais il faut dire que eux aussi, ils sont en danger. Et que quand on a l'impression d'acheter une bonne viande chez le boucher du coin, parce qu'on a l'impression qu'il a fait même, lui-même a choisi sa bête, que lui-même a choisi de le faire tuer et de l'avoir sur son étalage, ce n'est pas du tout vrai. Et c'est de moins en moins vrai pour ceux qui restent. Mon mari est agriculteur. Il travaillait avec un boucher, il venait chercher les bêtes à la maison, il venait les voir grandir, grossir, et il a arrêté de nous prendre des bêtes parce que l'abattoir de proximité, qui est à 60 ou 80 kilomètres de chez lui, ne veut plus tuer ses bêtes. Donc il est obligé de prendre à toutes ces grosses filiales qui sont les grosses boîtes à viande qui font que de la vache laitière, qui font que de la mauvaise bête. Et le boucher du coin, il va se servir dans ces abattoirs-là directement. Il prend ce dont il a besoin, des cuisses, des côtes, etc. Et donc, quand on a l'impression de payer un petit peu plus cher chez le petit boucher, c'est pas forcément la même, c'est pas forcément différent de ce qu'il y a sur les grandes surfaces. Donc, je tenais à le préciser. Et j'écoute bien évidemment vos émissions. Parce que ça fait réfléchir et qu'on apprend toujours plus et que c'est plus intéressant. À bientôt. Au revoir.
Je suis issu d'une famille agricole, donc je connais bien le problème, même s'il est sous-jacent. J'aimerais parler un petit peu de Pierre Bourdieu, qui avait dénoncé tout ça, qui avait dénoncé ce dumping social, n'est-ce pas ? Et j'aimerais préciser une chose qui doit être, à mon avis, présente dans l'esprit de tout consommateur qui se respecte. C'est-à-dire que les fruits, les légumes, c'est vrai que c'est immédiat, c'est chez nous, on peut le voir, tu peux faire un reportage, c'est pas très loin de Paris. Mais tous les produits que distribue la grande consommation, la grande distribution, tous les produits, tous les jouets, notamment pour Noël, pensez-y, messieurs et mesdames les consommateurs, eh bien, ce dumping social s'applique à tous ceux qui produisent ces jouets. C'est-à-dire que ceux qui produisent ces jouets, ils ont exactement dans la même situation que ces travailleurs précaires de Nîmes ou d'ailleurs. Voilà, merci à tous, au revoir.
C'est alors que je compris toute la puissance morale de ce préjugé, se croire vertueux et intègre parce qu'on est esclave. Marius Jacob, grand anarchiste dont il faut lire les écrits aux éditions L'Insomniaque. Voilà.
C'était le bidonville rural, un reportage de Thierry Scharf, première diffusion les 4 et 5 novembre 2003. Merci à Mongi, Naïma, Guy Marigot, Daniel Roche, Emmanuel Théré, Home Rap de Marseille et à l'Espace Accueil étranger de Marseille. Plus d'informations sur l'émission d'aujourd'hui, elles sont à votre disposition sur le site de la base Si J'y suis, sur franceinter.com. Technique aujourd'hui, Michel Thomas et Antoine Viossa. Réalisation Coy Nguyen. Assistant Yann Chouquet. Assistante Pascal Pascariello. Chef du répondeur Christophe Imbert. Le répondeur de là-bas, Si J'y suis, 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37, le mail daniel.mermet@radiofrance.com.